Il est 6 heures précises. La météo aujourd'hui, ce qu'on prévoit, ben, c'est alternance soleil-nuages. 40 % de risque d'averse, mais ça va être comme ça, là, 40 % au cours des prochains jours. Des risques d'averse et risques d'orage aussi en après-midi aujourd'hui. Il va faire 25 degrés. À peu près le même menu pour demain vendredi. Pas à peu près, mais exactement le même menu. Samedi, c'est du soleil avec 29 degrés. Des nuages, 30 % de risque pour dimanche avec 28 degrés. Bref, ce sera gris au cours des prochains jours, mais il va y avoir un peu de soleil à travers, puis peut-être même des orages. Il fait 17 en ce moment à Montréal. Alors, c'est une journée très attendue à Ottawa, le passage de Justin Trudeau devant ce comité des finances. Donc, Justin Trudeau va venir expliquer ses liens avec We Charity. Puis, il y a plein de questions qu'on a à lui poser. Là, tout le monde, ce matin, fait ses suggestions de questions à Justin Trudeau. Mais il y a des réponses aussi qu'on veut, pas juste des questions. Le problème, c'est que ça ne durera pas si longtemps, cette comparution de monsieur Trudeau. C'est la première fois, soit dit en passant, depuis 1932 qu'un premier ministre est convoqué à une telle enquête, parce que c'est une enquête, c'est une forme d'enquête que fait le comité des finances en ce moment. Et d'ailleurs, ce qu'on apprenait hier, c'est que le commissaire à l'éthique va aussi enquêter sur les liens entre We Charity et M. Morneau, le ministre Bill Morneau, le ministre des Finances. Le commissaire à l'éthique a fait savoir qu'il allait élargir la portée de son enquête pendant que les partis d'opposition, eux, se préparent à entendre Justin Trudeau. Le commissaire Mario Dion a dit qu'il se penchait sur les frais de voyage du ministre des Finances, Bill Morneau, qui avait été épongé par l'organisation. Souvenez-vous, le fameux 41 000 $ dont M. Morneau ne savait plus s'il l'avait payé ou non. T'sais. Moi, quand je fais un chèque de 41 000, ça n'arrive pas souvent. Puis je vais vous dire une chose, je m'en rappelle. En fait, c'est fictif, parce que je pense que j'ai jamais fait un chèque de 41 000 $. Honnêtement, surtout pas pour payer des frais de voyage. C'est pas mon genre de voyage. Je suis pas mal plus modeste que ça. Mais We Charity soulève une quantité importante de questions depuis... Et il y a une des questions que moi, je pose depuis un certain temps. Vous l'avez entendu si vous écoutez cette émission. Pourquoi We Charity est si attaché aux politiciens et vice-versa? Pourquoi les politiciens aiment tant We Charity et pourquoi We Charity aime à ce point les politiciens? Bon, We Charity, on peut comprendre qu'il y a un intérêt pécunier, bien que les frères Kilberger ont dit le contraire justement devant le comité, c'était avant-hier. Mais ce qu'on apprend ce matin à la une du Globe and Mail est très intéressant. We Charity a dépensé 600 000 $ américains pour payer des consultants qui sont près des politiciens à Washington. Et ça, c'est juste dans l'année passée, en fait. C'est 605 853 $ qu'on a donné à des lobbyistes, appelons-les comme ça, qui sont proches des différents partis politiques, et notamment du Parti républicain à Washington. Ça, c'est assez étonnant. Il y a un paiement, entre autres, de 130 000 $ américains qui a été fait à une compagnie qui s'appelle Firehouse Strategies, qui a été cofondée par trois anciens du bureau du sénateur Marco Rubio aux États-Unis. Et on dit sur le site de Firehouse Strategies que ils offrent des services complets d'affaires publiques pour des firmes qui veulent vraiment mettre en place des campagnes de persuasion auprès des partis politiques à Washington. Alors, il y a des liens évidents avec les différents gouvernements un peu partout. On sait que Scott Moe en Saskatchewan a aussi des liens avec We Charity. Puis, il y a le Toronto School Board qui est un organisme aussi électif. Là, c'est des gens qui sont élus sur cette commission scolaire-là à Toronto. Bref, pourquoi We Charity est si attaché, n'est-ce pas, aux partis politiques? C'est une question qui se pose et qui devra trouver une réponse à un moment donné, parce que les liens sont évidents et ça dépasse juste la famille de Justin Trudeau et de Bill Morneau. On se rend compte de plus en plus que des liens sont faits avec d'autres gouvernements. Bon, parlons un peu de la COVID, évidemment. On vous a parlé hier de ce centre dans la région de Beauport, les Trois Pignons, où on a demandé une enquête. Et on pose la docteure à qui on a parlé hier, la docteure Cordeau, je pense son nom, disait qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question sur la façon dont on gère aussi les résidences privées pour aînés. Et ça posait problème à Beauport, mais il semble que dans la région de Montréal aussi, il y a de ces résidences qui soient où les pratiques sont un peu discutables, disons. Et ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal ce matin, c'est que les conditions de vie sont aussi déplorables dans une résidence privée pour aînés de Montréal. C'est la résidence Chartwell Bois de Coulonges. On dit que les soins de base sont déficients, l'entretien ménager est négligé, les résidents sont obligés de dormir avec une couche souillée, manque de personnel devenu dangereux. Alors, ce sont les allégations qui sont soutenues par des employés de cette résidence privée qui ont requis l'anonymat parce qu'ils ont peur d'avoir des représailles de leur employeur. Et ces employés réclament rien de moins que la tenue d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur la situation à cet endroit. Donc, c'est pas juste... En fait, il semble qu'il y ait certaines lacunes qui sont relevées dans ces résidences privées pour aînés. Alors, là-bas, on dit « Oui, mais c'est une question de syndicat, puis le syndicat est pas content, on est en renouvellement de convention collective, on veut mettre de la pression. » Le syndicat dit « C'est pas vrai, là, on n'est pas en train... On ne tombe pas aussi bas que ça. » Bref, hier, la ministre des aînés, Marguerite Blais, a réagi sur Twitter. Elle dit « Je suis déjà en contact avec le CIUS et l'établissement. Des vérifications sont en cours », a-t-elle assuré. « Je le répéterai jamais assez, la tolérance zéro face à la maltraitance de nos aînés. » Mais encore une fois, là, ça dénote qu'il y a peut-être... faudrait peut-être mettre le focus sur ce qui se passe dans ces résidences privées pour aînés. Elles ne sont pas toutes déficientes. Il faut faire attention, là. Il ne faut pas généraliser, mais quand même, il y en a certaines là, qui sont gérées un peu n'importe comment. À la une, Journal Le Devoir, d'ailleurs, c'est intéressant. Le Devoir a mis la main sur un rapport qui a été rédigé par Dominique Savoie, la sous-ministre à la Santé, et qui a été remis à Christian Dubé sur la façon dont la crise a été gérée, la crise de la COVID, dans la région de Montréal. À Montréal, il y a eu 28 656 cas, 3 434 décès. La COVID-19 a frappé fort, dit-on. Donc, la ministre de la Santé, la sous-ministre à la Santé, a voulu se pencher sur l'organisation du travail dans la région de Montréal. Or, on a soumis un rapport, il y a 24 recommandations dans ce rapport. Ça a été soumis au ministre Christian Dubé le 23 juin et ça témoigne de divers problèmes de coordination ainsi que de tensions entre les CIUS de la région de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal et le ministère de la Santé et des services sociaux, notamment que la plupart des PDG des CIUS ont affirmé que certaines décisions étaient prises par les autorités sans que quiconque soit assuré au préalable de la faisabilité de leur application. Alors, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, je l'ai dit sur les ondes ici, je l'ai dit à plusieurs reprises, le diable est dans les détails. Quand t'es politicien, c'est bien beau d'arriver puis de dire, voici ce qu'on va faire, cette situation-là est intolérable, puis on va régler ça maintenant. Mais une fois que t'as dit ça, il faut qu'en dessous la machine suive et soit capable d'appliquer ce que t'es en train de dire. Alors, ça a été, je pense, un des problèmes qu'on a connus durant la pandémie au tout début, là, quand Mme McCann nous disait « Oui, on va régler ça », mais finalement, on se rend compte que c'était pas aussi facile à faire qu'à dire. Et donc, il y a eu des lacunes, des problèmes qui ont été assez importants. Et je vais juste vous illustrer, je vais vous lire quelque chose. Ça, c'est assez, juste pour vous dire à quel point là c'est complexe. Parce que là, il y a une guerre de juridiction. C'est-tu le CIUS? C'est-tu la santé publique? C'est-tu le ministère? Qui fait quoi? Qui gère quoi? La gestion des ressources, la gestion du matériel, des équipements de sécurité, etc. Alors, ça en finit plus. Écoutez bien la façon dont ça fonctionne. La structure administrative actuelle dans la région de Montréal. La Direction régionale de la santé publique de Montréal relève du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, mais dessert les 5 CIUS du territoire. La docteure Mylène Drouin ne dirige pas, ça c'est la directrice de la santé publique, la DSP de Montréal. La docteure Mylène Drouin ne dirige donc pas l'ensemble du personnel en santé publique de la métropole parce qu'elle fait partie d'un CIUS qui supervise d'autres CIUS, vous comprenez? Alors ça devient une chatte, il perdrait ses chatons. Alors après ça, comment veux-tu, qui relève de qui fait quoi? Alors c'est complexe. La structure en tant que telle fait en sorte que ça devient extrêmement difficile à gérer. Alors, c'est l'illustration quand même là, d'un des problèmes qu'on peut avoir. Bon, autre chose qui est vraiment intéressante aussi en ce qui concerne la COVID, puis après, je vous en parle plus, je vous le jure, là. Il y a des médecins, on l'a vu hier dans le journal The Gazette, il y a un groupe de médecins, ils étaient 27, je pense, à se mettre ensemble puis dire, écoutez, nous autres, on comprend pas pourquoi on a autorisé les regroupements de 250 personnes en public. Parce que devant l'ouverture des écoles qui s'en vient, c'était peut-être pas la décision la plus avisée d'exposer des gens au COVID-19 et faire en sorte qu'il puisse y avoir une contamination dans les écoles l'automne prochain. Or, ben ça inquiète aussi, ce qui inquiète aussi ces médecins-là à qui The Gazette a parlé, c'est les camps de jour. Parce que dans les camps de jour, il y a des jeunes qui sont les moniteurs des camps de jour. Puis on sait que c'est dans cette tranche d'âge-là qu'il y a une éclosion en ce moment, parce que les jeunes, ils se rassemblent entre eux. Puis ils ne respectent pas tout le temps les mesures de distanciation puis les mesures d'hygiène. Puis des fois, ils font des parties ensemble, puis ça se transmet la COVID-19 de plus en plus. On l'a vu d'ailleurs à Boucherville au cours des dernières heures, où il y a vraiment une éclosion assez importante. Alors là, on se demande, on dit, si ces jeunes-là se contaminent entre eux, contaminent les enfants, qu'est-ce qui va arriver ensuite quand les enfants vont retourner à l'école? Est-ce qu'on n'a pas là le germe d'une deuxième vague, finalement? Alors, il y a des inquiétudes qui sont exprimées par des médecins et par des spécialistes à qui The Gazette a parlé. The Gazette fait un très bon travail, soit dit en passant, sur la couverture, justement, de ces... Il y a beaucoup de médecins qui parlent à The Gazette. Ils sont bien branchés en la matière. Parlons de bonnes nouvelles maintenant. Là, c'est assez la déprime. Il y a cette mission dont je vous parlais tout à l'heure qui va décoller à 7h50 aujourd'hui. La fusée Atlas V qui va décoller de Cap Canaveral et qui va emporter une espèce de robot qu'on appelle Perseverance qui va se rendre sur Mars, va arriver quelque part au mois de février 2021 sur la planète Mars. C'est loin, Mars, quand même. Et là, quand ce robot va se poser sur la planète rouge pour aller faire des prélèvements d'échantillons, ben il va être dirigé par une jeune femme qui est québécoise et qui s'appelle Farah Alibé. Elle est née à Montréal, elle a grandi à Joliette, et elle travaille depuis quelques années déjà à la NASA, donc c'est une femme qui a un parcours scientifique très impressionnant. Elle a fait des études en génie aérospatial à l'Université de Cambridge, en Angleterre. Elle a un doctorat des ingénieries des systèmes à l'Institut des technologies du Massachusetts, le fameux MIT. Elle a été stagiaire au Jet Propulsion Laboratory à la NASA en 2012, lors du décollage du dernier rover qui avait été envoyé sur la planète, qui s'appelle Curiosity, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Elle travaille depuis 6 ans à cet endroit, au Jet Propulsion Laboratory. Et c'est elle à qui on a confié le mandat de diriger le fameux robot sur la planète Mars. Imaginez la responsabilité. Tu veux pas l'envoyer dans un trou. Alors, donc, c'est une femme qui a un parcours vraiment exceptionnel et qui a des responsabilités très importantes. Alors, bravo à cette jeune femme donc qui s'illustre sur le plan international. Ce qu'on va faire, entre autres, avec ce robot, c'est aller chercher des échantillons. C'est incroyable quand même à quel point la science est rendue développée. On va aller chercher des échantillons de sol sur un ancien lac parce qu'on veut voir s'il y a effectivement eu de la vie sur la planète Mars. Si on ne peut pas trouver des traces de bactéries, par exemple, ou qu'on pourrait dans des échantillons de sable, on va tester directement sur la planète Mars, mais ensuite, ces échantillons-là vont être scellés et ramenés sur Terre dans une mission ultérieure qui est prévue pour 2031. Alors, vous avez le temps, là, de... c'est pas demain la veille qu'on va avoir des cailloux de la planète Mars sur Terre, mais quand même, il reste que c'est un exploit technologique assez impressionnant. D'ailleurs, pour la première fois, il va y avoir une espèce d'hélicoptère ou de drone, si vous voulez, qui va voler sur la planète Mars dans cette mission-là. C'est assez impressionnant. Bon, à part ça, dans les autres nouvelles intéressantes qu'on retrouve dans les journaux, ça, c'est inquiétant. Dans la vague de dénonciation sur... les agressions sexuelles qu'on connaît. Il y a 4 policiers du service de police de la ville de Montréal qui auraient intimidé en pleine salle d'audience la victime d'une agression sexuelle d'un policier. C'est ce qu'affirme le tribunal. Au moment même où on connaît cette vague, il y a cette procédure-là qui est devant les tribunaux en ce moment. Et puis, ce qui se serait passé, en fait, c'est que, bon, d'abord, l'agression s'est déroulée il y a quelque temps. L'enquête porte sur des allégations d'intimidation de policiers, mais aussi sur des lettres d'appui à l'agresseur qui ont été signées par des supérieurs. Alors, l'épisode d'intimidation est survenu l'été dernier pendant le procès du policier André Hébert Ledoux, qui s'est retrouvé au cœur des audiences sur la peine du policier ce mois-ci au Palais de justice de Montréal. En fait, l'homme de 33 ans a été reconnu coupable au mois de mars d'avoir agressé sexuellement une amie. C'était pendant un événement public il y a 3 ans, alors qu'il était en état d'ébriété avancé. Là, il est en appel de cette décision-là. Mais quand on était en train de faire les audiences sur la peine du policier, la victime, qui était devant le tribunal, à un moment donné, s'est retrouvée entourée par les policiers pendant une pause. Alors, parce qu'il y avait des policiers, des collègues de Hébert Ledoux qui se sont rendus en appui à leur confrère. Ça, c'est fréquent quand les policiers sont devant le tribunal d'avoir des appuis. Mais là, à un moment donné, il y a quelques policiers qui assistaient au procès. C'était le 19 juin 2019, donc l'année passée. Et là, après la suspension pour le dîner, en l'absence du juge, les 4 policiers se sont placés tout près de la victime qui pleurait dans la salle d'audience. Alors, les avocats de la victime disent « c'est de l'intimidation qu'on a fait à leur égard ». Et les avocats disent « non, pas du tout, c'était pas ça, c'était, bon, on s'est mis en travers pour protéger la victime ». Bref, c'est cousu de fil blanc. Alors, il semble que là, il y aurait quand même eu de l'intimidation faite à l'égard de la victime et on demande à ce que ça soit considéré lorsque le juge va établir la peine au policier en question. Et ben restons dans le judiciaire. Les 2 manifestants qui ont été visés par... qui avaient entouré la journaliste Karianne Bourassa en fin de semaine à Québec lors d'un reportage, sont visés par une plainte officielle qui a été faite par la journaliste et TVA devant la police de Québec. Donc, la journaliste s'est rendue rencontrer les policiers. Ça s'est passé hier avec son avocat, René Vérette, qui est un ancien procureur de la Couronne à Québec. Donc, il connaît, il est au courant, il sait comment ça marche. Alors, donc, ils se sont rendus dans les bureaux de la police hier pour rencontrer les enquêteurs. Il y a une plainte formelle de voie de fait qui a été déposée contre les 2 hommes. Et là, le journal a rencontré... Tu sais, le premier s'est excusé, lui, hier. Un des 2 s'est excusé hier dans le journal de Montréal. Il disait, bon, je voulais pas... Là, l'autre, le deuxième, qui s'appelle Jean-Guillaume Tremblay, qui est originaire du Saguenay, a aussi été rencontré hier par une journaliste du journal. Ils sont allés le rencontrer. Puis lui, il s'est dit désolé qu'elle ait reçu cette preuve d'amour comme une agression. Lui, il dit que c'est une preuve d'amour. Alors, je voudrais pas être sa blonde parce qu'il y a des drôles de façons de démontrer son amour. Alors donc, il dit, je vais me retrouver devant le tribunal. On va se retrouver devant le tribunal avec ses avocats sont en train d'évaluer la chose. Ses avocats, il y a plusieurs avocats. Alors, semble-t-il, en tout cas. Donc voilà, alors ça se retrouve. Là, il faut à un moment donné arrêter là, puis dire que ça ne se fait pas. Si ça avait été un homme qui était à la place de Mme Bourassa, ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est parce que c'est une femme que les 2 gars sont allés l'entourer de cette façon-là, ce qui est encore pire. Dans le cas d'Yves Poirier, on a vu ce qui s'est passé. Il s'est fait lancer des affaires puis s'est fait insulter comme du poisson pourri. Alors, encore là aussi, je pense qu'il y a matière à porter plainte. Mais dans le cas de Mme Bourassa, c'est parce que c'était une femme qu'elle a été victime de ça, pas parce qu'elle était journaliste.